Donc, mon nom est Nelly Ziegler, je suis chercheuse au CNRS, directrice de recherche au CNRS, et je suis en partie de cette exposition puisque j'ai travaillé sur des archives trouvées en Syrie qui ont été publiées et dans laquelle on trouve la correspondance des musiciens avec les rois de leur époque, et donc une correspondance.
Et je suis Ariane Thomas, conservateur au département des Antiquités orientales au Musée du Louvre, en charge des collections mésopotamiennes, et j'ai donc fait partie de ce projet puisqu'il regroupe d'assez vastes domaines géographiques et chronologiques autour de la musique dans l'Antiquité. Nous avons choisi de l'aborder en réunissant depuis l'Asie centrale jusqu'à la Gaule romaine, à la fois les antiquités dites orientales du département auquel j'appartiens, qui recouvrent grosso modo le Moyen-Orient actuel dans l'Antiquité, mais également les antiquités égyptiennes, donc de l'Égypte antique, et les antiquités grecques et romaines, donc évidemment la Grèce antique et le vaste empire romain qui a recouvert un certain nombre des zones que je viens d'évoquer. Ceci nous amène donc à couvrir un espace géographique très vaste et sur une très longue étendue de temps, puisque les plus anciennes œuvres exposées datent de la fin du 4e millénaire avant notre ère et que l'on va grosso modo jusqu'au 6e siècle de notre ère pour les plus récentes.
Alors évidemment, c'est un peu frustrant de ne pas voir la musique réelle. On a évidemment des instruments, certains bien conservés. Peut-être qu'on peut expliquer pourquoi certains sont mieux conservés que d'autres dans certaines régions. Et puis on a une documentation écrite en langage de l'époque qu'on peut éventuellement décoder, mais vous nous avez beaucoup aidés.
Voilà. Donc, en effet, en Orient ancien, on a retrouvé des instruments que lorsque les conservations étaient possibles. Donc, c'est du métal, surtout, qu'on a trouvé. Mais il y a un site qui majeur, c'est la ville d'Ur, en Irak du Sud, dans laquelle on a retrouvé un cimetière de rois et des hauts personnages de la cour qui se faisaient enterrer avec soit des musiciens, soit avec des instruments de musique. Et ces instruments étaient découverts et grâce à leur plaquage en or, grâce à leur décoration sublime, ils ont pu conserver leur forme, pas à cause du bois, pas à cause des éléments périssables, mais à cause de la décoration, et donc qui ont donné un aperçu sur ces instruments. Là, on est vraiment les sœurs pauvres de l'Égypte qui, elles, a des conditions de conservation extraordinaires. Et en Égypte, on trouve des instruments en bois, en os, en roseau, entiers, et qui permettent donc de comparer notre documentation à celle de l'Égypte ancienne.
On imagine que la musique a toujours accompagné l'homme, déjà par sa voix peut-être, et puis aussi par des instruments qu'il a élaborés au fil du temps, de plus en plus complexes peut-être ces instruments.
Alors, ce que l'exposition essaye de montrer notamment, c'est d'une part à quel point elle était présente dans la vie quotidienne de l'Antiquité, et aussi bien dans les rituels que dans le quotidien à des fins protectrices ou autres, à la guerre, auprès du pouvoir. Et donc, présente mais différente, on montre aussi qu'on a différents sorte de musique, d'une musique très savante, très complexe, à une musique peut-être plus simple et plus quotidienne. En revanche, il y a des différences selon les domaines, aussi bien au niveau des usages que des instruments eux-mêmes. Et une autre chose sur laquelle je crois l'exposition essaye vraiment d'insister, ce sont ces rapprochements, ces différences et le fait qu'il ne faut sans doute pas chercher, comme on a pu le faire par le passé, l'origine d'un instrument de musique ou d'une pratique musicale. Il y a du sens à regrouper ces différents domaines de l'Antiquité pour voir un certain nombre de dynamiques et d'évolutions, mais chercher les origines reviendrait à en inventer plus qu'à en trouver.
Alors on est au 21e siècle, les recherches ont apporté des éléments qu'on n'avait pas au 19e siècle quand on a essayé de présenter ces instruments et des contextes.
Oui, la redécouverte de la musique commence pour les périodes grecques et romaines à la Renaissance déjà. Ensuite, des grandes avancées ont été faites en effet au XIXe siècle, notamment aussi grâce à l'Égypte avec les instruments et les découvertes qui ont été apportées en Europe. Pour l'Orient, la découverte est beaucoup plus récente. Donc, les premiers ouvrages se sont attachés au relief assyrien qui montre des musiciens dans différentes scènes de la vie du roi, de la guerre que le roi menait, la chasse que le roi menait, les sacrifices que le roi organisait. Donc, c'est une musique assez représentative, proche du roi. Et uniquement avec le début du XXe siècle, on fusionnait plusieurs types de sources qui ont permis d'avancer dans les recherches. D'abord, les fouilles d'or que j'ai déjà évoquées, avec des instruments magnifiques qui ont été retrouvés, et des musiciens, et cette vie de cour très différente et beaucoup plus ancienne que les reliefs assyriens du premier millénaire, donc les documents du troisième. Et deuxièmement, parce qu'on comprenait de mieux en mieux des textes. Et les textes, ils donnent un aperçu sur un vocabulaire très spécialisé, une façon de traiter la musique de manière très très savante, avec beaucoup de règles, avec beaucoup de différents réglages, de modes de passer d'un mode à autre, comment on fait, etc. Et ces instructions ont donné un aperçu que sur le fait que la musique est quelque chose de vraiment très très valorisé par les gens de leur époque. Et on a même un texte dans lequel on dit les scribes normalement se vantent que leur art est le meilleur, mais ils disent c'est vrai que les musiciens, ce qu'ils savent, c'est encore mieux que ce que nous on fait, c'est encore plus difficile que l'art du scribe. Donc c'est vraiment un aperçu sur cet art apprécié parce qu'il traduisait, transmettait à travers trois millénaires les mêmes hymnes, les mêmes chants, les mêmes textes qui ont été créés au troisième millénaire, qui ont été chantés dans les temples, et jusqu'au premier millénaire, alors que la langue avait changé, on ne parlait plus du tout le sumérien, ces chants-là étaient encore produits dans les temples de la même manière.
Alors il y a une harpe particulièrement intéressante, puisque elle a été présentée, elle est présentée ici dans une position qui est la position, on va dire, originale, hein, originelle de la manière dont on en jouait, et qui a été représentée par contre au XIXe siècle dans une position très différente, à l'envers en fait.
Alors l'exposition invite aussi à voir comment des recherches donc plus ou moins récentes, comme on vient de l'expliquer, sur la musique antique ont permis de mieux comprendre à tout point de vue les instruments et notamment de ne plus les présenter à l'envers, par exemple avec cette harpe. On montre aussi, puisque c'est un des apports de l'exposition, des recherches toutes récentes faites en partie pour l'exposition, avec par exemple une modélisation 3D d'instruments qui n'existent plus réellement en tant que tels parce que trop de parties sont manquantes. Vous verrez notamment un fameux cornu que l'on peut faire entendre, mais de manière virtuelle, quand l'instrument réel ne peut plus être joué, mais que les techniques les plus modernes, on va dire, d'investigation, permettent de faire entendre de manière tout à fait inattendue.
Voilà, donc effectivement, on peut en entendre des sons, comme vous le disiez, numérisés, virtuels. Par contre, est réel, mais les mélodies, ça nous échappe quand même.
Mais on a quand même trouvé des textes qui retracent la mélodie qui devait être chantée. Par exemple, sur le site d'Ougarit du XIVe siècle, on a noté par écrit différents hymnes en les accompagnant des cordes à pincer, donc la troisième corde de la harpe ou de la lyre, la cinquième corde, trois fois de suite. Et du coup, on peut rejouer la mélodie telle qu'elle était produite à l'époque.
Alors par rapport à ces mélodies, elles étaient supportées par un certain nombre de notes, pas forcément notre gamme à nous. Il y avait combien à peu près de notes exploitables à l'époque ?
Non, au contraire, on a vraiment l'impression que le système musical, les notes, les gammes, correspondent à ce qui a été poursuivi ensuite par les Grecs et ensuite par la musique européenne. Donc
nous sommes les héritiers de cette musique antique.
Ça c'est sûr, nous sommes les héritiers de cette musique orientale qu'on a une première fois au XVIIIe siècle dans des textes, mais on peut supposer que les origines sont plus anciennes déjà, mais au XVIIIe siècle, les premières traces de ces modes et réglages et tonalités et principes de musique étaient déjà présentes.
Est-ce que les différentes gammes d'instruments, alors je vais dire à cordes, avant, percussion, etc., se retrouvent à l'époque déjà ?
Alors, pas sous cette forme-là, et même si dans l'exposition, on utilise les familles modernes, les noms changent d'abord d'une discipline à l'autre, et les noms anciens posent un certain nombre de questions. Il n'empêche que, d'un point de vue de facteur d'instruments, on peut néanmoins les regrouper sous la famille des instruments à vent, des percussions ou des cordes, même si ça n'a pas beaucoup de sens d'un point de vue de l'étude des musiques antiques.
Donc les airs de l'époque, on les retrouvait chez les rois, hein, dans les cours, et puis on les retrouvait chez les gens pour un certain nombre de rites, par exemple les fêtes, mais aussi les funérailles ou d'autres choses déjà.
Tout à fait, et là encore, même s'il y a des spécificités tout à fait évidentes d'un domaine à l'autre, on peut même se dire que ça ne change pas non plus tant que ça par rapport à de nos jours, où un certain nombre de moments officiels ou de la vie privée peuvent être ponctués par certaines musiques. C'est ce qu'on essaye de montrer. En revanche, je crois que notre consortium, puisque nous sommes 8 commissaires, nous sommes aussi accordés sans mauvais jeu de mots sur le fait qu'une des difficultés premières, c'était sans doute d'imaginer ces sons omniprésents dans l'Antiquité, alors que nous sommes habitués à une Antiquité qui s'est tue depuis longtemps, et d'autre part aussi à une perception des sons qui fait une bonne partie de la musique et pour laquelle nous devons vraiment nous abstraire des préjugés qui font notre époque pour essayer d'envisager la manière dont percevaient les antiques les sons que l'on essaye dans cette exposition de faire réentendre, puisque évidemment tout dépend avant tout de l'oreille qui écoute.
Alors vous êtes 8, vous venez de le dire, hein, à avoir conçu cette exposition pour le Louvre-Land, j'ai bien compris, et qui va après aller en Espagne.
En Espagne, en partenariat avec la fondation La Caixa, qui a 2 antennes, l'une à Barcelone, qui accueillera d'abord l'exposition au tout début de l'année prochaine, puis à Madrid, à partir du mois de juin 2017.